Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 5 de la French Connection. En ce mois d'avril, avec moi, j'ai Nicolas. Salut Nick.
Salut!
J'ai Richer. Salut Richer.
Salut!
Et Guillaume qui se joint à nous. Salut Guillaume.
Salut, salut tout le monde.
Et Guillaume est en écho. Donc, ce mois-ci, pas d'Europe parce qu'on a eu un petit problème de logistique qu'on enregistre de soir au Québec. Donc, il est vraiment, vraiment tard ou très tôt en Europe. Beaucoup de sujets à discuter, quelques nouvelles, mais en même temps, on va surtout discuter de gros hacks et de leaks qui se sont passés dernièrement. On va commencer par un qui est quand même assez drôle, mais en même temps, côté sécurité, disons-le, quand même très mauvais. Richer, parle-nous des sirènes de tornades.
Effectivement. Donc, il y a un groupe de personnes qui ont été capables de pouvoir faire partir les sirènes de tornade dans le coin de Dallas. Et ils n'ont pas attaqué les systèmes d'urgence en tant que tel, mais ils ont fait ça par radio pour être capables d'émuler la communication directement avec les radios, avec un vieux système de radio, puis ce qui a fait en sorte que ça a envoyé le signal pendant 90 minutes, que ça s'est mis à crier pendant tout ce temps-là. Donc, c'est assez... C'est intéressant du fait que c'est justement fait avec le signal radio qui ont spoofé finalement, là, qui ont émulé ça directement au système pour contrôler ça dans le système central.
C'était un replay attack, à ce qui paraît, c'est ça?
C'est ce que je crois. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Justement, le fait de pouvoir faire spoofer ça. Et ils ont fait rouler jusqu'à 156 sirènes. Directement dans le système qui ont été capables de faire tout tourner en même temps. Donc, si on regarde dans l'article, on voit la carte à quel point ça couvre assez large. C'est assez impressionnant, le nombre de la couverture avec le bruit. Ça devait être fatigant, quelque chose de rare, ça.
Ouais, je pense qu'en termes de décibels, c'est une affaire comme un avion pendant une demi-heure de temps non-stop. Ce qui est drôle aussi, si vous regardez sur Twitter, il y a quelques images qui sont sorties de personnes qui ont eu accès au tour en tant que tel, physiquement, qui n'étaient pas barrées, les portes, on pouvait rentrer, et finalement, il y avait la clé pour ouvrir l'ordinateur qui était barré, fait que la clé était directement dans la serrure. Et à partir de là même, ils pouvaient faire l'attaque, mais l'attaque officiellement, c'est juste un replay d'un paquet... ARF qui est envoyé, là. Très simple comme ça.
C'est quand même intéressant, justement, que ça peut être aussi low-fi, finalement. Là. Fait que c'était une petite chose intéressante. Fait que, dans le fond, le conseil d'administration de la ville ont décidé de se voter un 100 000 $ de plus pour être capable d'essayer d'arranger ça. Pas une mauvaise chose, parce que ça... Malgré le fait, je disais que c'est pas... Ça peut causer la panique, premièrement, ça c'est une chose, mais il y a le principe, c'est juste que ça fait pas de... ça fait pas de mal directement, mais ça serait un peu faux, là. Mais quand même, c'est pas une mauvaise chose de corriger ça, là.
Ouais. Ben, tu sais, le fait que le 911 avait comme 6 minutes de temps d'attente, je pense que c'était effectivement assez dangereux.
Ah. Ouais, c'est vrai, le nombre de téléphones au 911 a doublé ou quadruplé, ça a causé vraiment un méchant bordel.
Dans ce cas-là, oui, effectivement. De ce point de vue-là, c'est une chose.
Yes. Prochaine nouvelle, en fait, qui est un gros leak qui a eu lieu par Shadow Broker, un deuxième qui ont leaké les hacking tools de la NSA, leur exploit, leur version interne de Metasploit recodée en Python. Et même aussi... Ce qui était peut-être un petit peu moins parlé, il y a eu beaucoup, beaucoup d'informations de leur activité de hacking contre d'autres gouvernements ou entreprises qui a été leakée dans ça. Donc, vraiment énorme. Richer, qu'est-ce que tu avais à dire sur ça?
Ça, comme c'est là, moi, j'avais pas vu cette nouvelle-là. Avec mon rhume dernièrement, j'étais couché dans mon lit plus qu'autre chose.
Ah! C'est pour ça qu'il n'était pas là.
Comme la pire excuse.
Ah, je sais, mais C'est ce que j'ai.
Mais moi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'il y a une partie qui était leakée en premier, puis il y avait un paquet de vieux exploits, puis c'était drôle, là. Solaris 0.2 qui roule SendMail sur Solaris 0.2, puis etc., là, ce genre de joke-là. Puis là, tout à coup, bam, paquet de trucs quand même assez fiables pour des versions modernes de Windows. Fait que j'ai l'impression que autant MS-08-067, c'était le cadeau ultime pour les pentesters, puis ça a pris des années avant qu'on commence à en voir moins souvent. Ben, j'ai comme l'impression que les patchs des deux derniers mois vont être l'équivalent 2016 du MS 2007 du MS-08.
Oui, exact. L'attaque RDP et les attaques sur le port SMB, le Samba, est carrément un nouveau MS-08. Puis en même temps, la plupart du monde qui ont fait les recherches quand le leak est sorti, le code marche presque automatiquement, tout de suite, sans trop de modifications. Certains ont eu un petit peu de la misère, mais on commence à voir de plus en plus de preuves de concept qui ont été recodées et qui sortent sur GitHub et un peu partout. Donc, ça, l'exploit là, devient weaponisé de plus en plus. Donc, ça va être effectivement utilisé en pentest non-stop dans les prochains... Moi, mais effectivement, année, parce qu'on le sait qu'en entreprise, tout ce qui est mis à jour, patch, n'est pas facile et quand même un gros process qui fait qu'on se retrouve des mois en retard. Là.
Puis, c'est sûr que il y a beaucoup de les ports SMB, remote desktop, des trucs comme ça, c'est des choses que de l'externe, c'est relativement facile de prévenir. Mais de l'interne, bon, un file server à partir d'un poste de travail, il va toujours avoir son port 445 d'ouvert. Tu sais, fait que c'est pas si facile que ça de faire de la segmentation jusqu'au point où c'est pas problématique, puis il n'y a aucune chance que ça soit exposé. Parce que c'est le genre de truc qui devait beaucoup être exploité par l'interne aussi, tu sais, après avoir envoyé du phishing ou quelque chose comme ça. Puis aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant avec Shadow Broker, c'est un peu la panique. Tu sais, oh my God, c'est des zero days. Microsoft a pas eu le temps de patcher. Ça a été releasé. Puis un peu tout le monde qui freak out pour se rendre compte que, ah, oups, on n'avait pas installé les patchs qui étaient déjà sortis avant de tester les exploits. Finalement, c'est déjà patché. Microsoft l'avait juste pas mentionné dans les release notes parce que ça avait pas encore été leaké. Fait que, tu sais, toute l'histoire de qui l'a dit à Microsoft, quand est-ce qu'ils l'ont su. Puis tu sais aussi, il y a un patch Tuesday qui a comme été sauté là, il y a un ou deux mois, fait que d'après moi, c'est probablement relié.
Oui, il avait dit que c'était pour corriger des trucs plus urgents qui délayaient ça, fait que ça fait quand même du sens que ça soit relié. Mais effectivement, l'état de panique a été quand même très drôle, surtout pour ceux qui l'ont testé sans mettre tous les patchs à jour sur leur système de test, donc c'était quelque chose.
Puis il y avait beaucoup de trucs pour Windows, mais je pense qu'il y avait un exploit pour cPanel aussi qui est pas mal utilisé par les hébergeurs.
Oui, exact. Puis la communauté sur Twitter a essayé de demander à cPanel d'avoir un update sur le sujet et j'ai pas vu d'update encore. Ça serait dans un CGI qui est utilisé dans le panel qui donnerait un RCE, comme en à distance. Direct dans le cPanel, puis on sait que cPanel est utilisé dans des gros hébergeurs, donc si ce type d'exploit-là existe, c'est pas juste un site à la fois, mais des centaines qui peuvent être attaqués là, via ce panel-là. Puis ça, c'est cPanel, mais il y en a plein d'autres. Il y en a eu sur Linux, sur Solaris, je crois aussi, et plusieurs petites autres choses de ce type-là. Et l'autre chose qui est intéressante, bien, c'est l'analyse qu'ils ont fait de les attaques de la NSA envers les autres pays, comme quoi qu'ils auraient attaqué, piraté le système de SWIFT, qu'ils auraient eu accès à ça pour analyser les transactions bancaires en Europe ou peu importe les zones, mais ils regardaient dans le fond les transactions des pays qui font des transactions illégales. C'est un peu dans le sens qu'il avait découvert ça, mais là, ça démontre que ce type de système-là a été infiltré de bord en bord. Puis
j'imagine que tu n'as pas le choix. Hein, si tu veux regarder qu'est-ce qui se passe dans des banques dans ces pays-là, c'est un peu normal que le gouvernement essaie d'avoir accès à ça. Mais exact. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas la Russie, il n'y a pas longtemps, qui avait annoncé qu'il voulait passer une alternative à SWIFT comme au mois de mars qui parlait de ça, fait que le timing est assez intéressant aussi.
Ouais, exact. Puis depuis l'année passée, il y a beaucoup de recherches qui est faites sur Swift et le nombre de vulnérabilités de trucs assez niaiseux dans leur système démontre que c'est super vulnérable. Donc là, c'est pas juste que le système était vulnérable, mais il a été infiltré de bord en bord, que ce soit par du social engineering ou autre. Mais il était backdoré pour faire de l'analyse. Puis comme tu dis, c'est normal qu'ils valident ça de cette manière-là. C'est de l'espionnage, puis c'est effectivement la seule manière pour eux de savoir qu'est-ce qui se passe pour certaines transactions énormes qui se produisent. La banque ne le dira jamais, là, c'est certain.
Bon, mais parlant de gouvernement, on avait une autre nouvelle là-dessus.
Yes! C'est une nouvelle du Canada. On a notre CIA canadienne, C6, qui aurait mis en place des EMZ Catcher, des tours fantômes cellulaires pour traquer, intercepter du trafic cellulaire dans la plupart des aéroports du Canada. Là, il y a eu la nouvelle comme quoi que oh, c'est nouveau, le gouvernement, la police fait ça, mais ça fait quand même depuis 2010 que juste la police de Montréal-Toronto utilisait ces systèmes-là, puis ça avait déjà fait les nouvelles. Sauf que là, ben, c'est répandu dans tous les aéroports, mais en même temps, personne n'a vraiment prouvé il était où, la fausse tour physiquement.
Puis c'était qui?
Mais tu sais,
c'est la partie... On parlait pas une semaine d'après du Parlement. Tu sais, autour du Parlement, il y a des MZ Catchers. Tu sais, comme si c'était une surprise, là.
Ouais, j'espère qu'il y en a. Je veux dire, la plupart des autres gouvernements doivent essayer de faire de l'espionnage.
Mais c'est ça, il n'y a pas de surprise en soi. C'est ça qui est étrange dans cette nouvelle-là. Puis je trouve que c'est du sensationnalisme, un peu, qui a été fait. Mais d'un point de notre regard à nous, en sécurité, peut-être, là.
Ouais, ben tu sais, justement, le gouvernement des politiques contre ça, là, il est supposé avoir plein de trucs qu'ils sont pas supposés discuter justement sur cellulaire, SMS, puis tout ça, c'est pas pour rien. Bon, peut-être que nous, on est plus habitués à ce genre de choses-là, mais moi aussi, je trouve que c'est une nouvelle qui a été un peu sensationnalisée, là. Mais je pense que pour tout le monde, c'est juste important de se souvenir que les messages textes classiques puis les appels vocaux, ben, c'est pas sécuritaire, puis c'est pas demain matin que ça va le devenir, puis qu'il y a probablement un MZ Catcher proche de vous quelque part.
Ouais, exact. Puis la partie un peu broche à foin du média qui a sorti ça, c'est qu'ils ont dit qu'il y en avait X nombre alentour des aéroports, du Parlement, blablabla, bla, bla, puis ils ont posé essayer d'en trouver un. Fait en même temps, ça prouve peut-être que c'était juste des faux positifs ou que c'était super dur à trouver. Quand on regarde les talks qui parlent des MZ Catcher, c'est un des points qu'ils disent, c'est... Les données, les tours, il y en a qui tombent off, on, super souvent. Les données, c'est pas stable, donc c'est super dur prouver qu'il y en a une. Puis là, physiquement, la trouver, c'est encore plus complexe. Yes. Donc, en parlant de nos tours fantômes, un autre concept un petit peu pour tromper tout le monde, pour pas que ça paraisse, le fameux Pony Code. Richer. Vas-y avec les Pony Code.
Donc, c'était en tant que telle, une façon de pouvoir faire du beau petit phishing avec de l'Unicode. C'est que dans le fond, la manière avec les URL, comment ils sont utilisés, ça fonctionnait dans le fond, ça causait un problème dans Firefox, dans Chrome et dans Opera. C'est que tu pouvais avoir un URL qui avait l'air bien correct dans ton lien et après ça dans ta page aussi et finalement que ça te redirigeait à une mauvaise place. Donc ça c'est assez... Puis tu t'en rends pas compte, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder l'URL où est-ce qu'on est supposé de s'en aller et c'est quelque chose qui était pas visible pour ça. Là. Donc c'est ça peut être assez... épeurant. On a plus le goût de. On a encore moins le goût de cliquer sur les liens des courriels rendus là.
Ouais, ben, je pense, moi, les noms de domaines internationaux en général, c'est un peu catastrophique pour la sécurité depuis le début. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas les Puny Code, la façon peut-être la plus facile de visualiser ça, c'est une représentation en ASCII, texte normal. D'autres caractères en Unicode. Donc, par exemple, il y a certains top-level domains qui permettent d'avoir des noms de domaine en emoji. Mais dans certains navigateurs, vous n'allez pas voir vraiment le emoji. Vous allez voir XN-. Ça, c'est le Puny Code. Mais il y a certains navigateurs qui exécutent, mais pas qui exécutaient, mais qui l'affichaient de la vraie façon en Unicode. Puis ça peut être vraiment, vraiment mélangeant. je recommanderais vraiment en entreprise, si vous gérez un parc d'utilisateurs, de juste bloquer les noms de domaine internationaux. La plupart des navigateurs ont une option pour ça, sinon au niveau de vos serveurs DNS internes, vous allez probablement être capable de faire ça. Puis on va mettre un lien en emoji dans les show notes. Vous pouvez cliquer dessus, essayez-le dans Safari versus dans Chrome, Firefox, Internet Explorer, puis vous allez voir que l'adresse en haut n'est pas tout à fait pareille.
Yes, puis l'autre chose qui est intéressant, ça, quand on merge ce concept-là avec d'autres choses, fait que si quelqu'un a un Puny Code qui représente Apple.com, mais que finalement, c'est des lettres différentes, mais qui ressemblent à un A, un P, un L, c'est la venue de Let's Encrypt qui fait que c'est super facile d'avoir des certificats SSL facilement implémentables. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de sites de phishing, de malware et autres qui vont utiliser Let's Encrypt, qui vont mettre des HTTPS partout. Puis le monde, quand il voit que c'est marqué « Secure HTTPS », il pense que le site est sécuritaire, mais 100%. Bon, évidemment, je parle de monsieur, madame, tout le monde qui ne sont pas tech-savvy. Donc, mélange le Puny Code avec un HTTPS et tu as une recette très, très gagnante.
Ouais, ben c'est ça. C'est le désastre de l'interface graphique qui va avec le HTTPS. Tout le monde est entraîné à voir « Ah, le petit cadenas, c'est sécuritaire. » D'ailleurs, je suis dans Chrome en ce moment et j'ai une page en HTTPS avec un bon certificat devant moi puis c'est écrit « Secure ». Mais la plupart des gens ne vont pas comprendre, c'est juste la transmission. Là. Fait que c'est effectivement les deux mélangés, ça fait une combinaison assez puissante. Mais bon, Let's Encrypt puis les certificats gratuits en général, c'est là pour rester. Fait qu'il faut juste peut-être repenser toute la.
Ouais, c'est toute le design la notion visuel.
Exactement.
Donc,
en fait, il faudrait plutôt dire que ce qui n'est pas en HTTPS est vraiment pas sécuritaire, puis juste rien dire maintenant quand les trucs sont en HTTPS.
Mais ça risque d'aller par là avec Chrome et Firefox qui veulent mettre une alerte ou un gros rouge quand les sites vont être HTTP.
Ouais, mais comment après ça tu certifies que,
ouais.
Bon, mettons, je sais pas, ta banque.com, c'est mieux que l'autre. On sait que les Extended Validation pour les certificats, c'est pas vraiment fameux non plus. T'sais, exemple, les certificats de Symantec qui viennent de perdre leur statut d'Extended Validation dans Chrome, qui vont de plus en plus se faire révoquer leur trust aussi. Fait que disons, il n'y a pas de solution facile pour ça pour l'instant.
Mais c'est déjà une bonne chose qu'au moins, justement, comme Google qui disent qu'ils vont vouloir qu'ils font plus confiance à ceux de Symantec. Je pense que c'est déjà une bonne chose, mais c'est parce que ça peut être mal interprété ou bien le monde peut ne pas comprendre pourquoi ils font ça. Fait que moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est parce que ça dépend tout le temps de la perception de comment les gens vont voir ça. Là.
Mais on devient toujours très réactif face à tout ça. On n'est jamais en avance. Fait que, autant Google sait bien ce qu'ils font, mais ils font toujours après coup, énormément après coup. Le SSL, on entraîne les gens pour dire que c'est sécuritaire, mais on peut te livrer une bombe de façon sécuritaire aussi. Là. Puis ouais. On est tout ton système de façon sécuritaire aussi. Là.
C'est exactement ça, ouais. Ah. Yes, donc on a parlé du Puny Code qui est carrément au niveau des browsers, une mauvaise validation des codes ASCII. Mais on a aussi la nouvelle version de l'OS Top 10 qui est sortie, qui permet à tous les développeurs de justement faire de la très bonne validation au niveau du code et de tout ce qui est gestion des sessions, etc. Puis il est sorti la release candidate pour la Top 10 2017 très récemment. Très peu de changements, en fait. J'étais même un peu déçu. Il est sorti deux nouvelles catégories, la A7 qui est devenue Insufficient Attack Protection et A10 Under Protect APIs. Beaucoup de monde ont commencé à faire du drama et chialer sur Twitter comme quoi que c'était peut-être pas nécessaire ou que ça valait pas la peine de parler d'insuffisance de protection. Mais en même temps, dès qu'on fait du pentest ou du bug bounty, c'est la première chose qu'on va voir. C'est pas toujours des méga attaques super complexes, mais des niaiseries qui sont pas en place parce qu'ils ont pas mis de la protection.
Ouais, mais moi, tu vois, le insufficient attack protection, je pense que le underprotected API, ben, tu sais, ça, on en voit de plus en plus souvent, puis je comprends, mais insufficient attack protection, j'ai un peu de la misère à comprendre. Tu sais, exemple, Bon, dans la liste, il y a tout le temps presque eu injection. Au début, c'était juste SQL injection. Bon, il y a d'autres, d'autres sortes d'injections, tout ça. Ben, le fait de faire tes queries comme il faut pour pas qu'ils puissent avoir de l'injection SQL, moi, je vois pas ça comme un attack protection du tout. Puis là, quand tu me dis attack protection, moi, la première chose à quoi je pense, si je lis pas les détails, je fais juste entendre ça, je me dis, OK, ça m'aurait-tu pris un WAF ou quelque chose comme ça? Puis ça me fait penser à des choses que tu bottes autour d'une application qui n'est pas sécuritaire pour essayer de la rendre sécuritaire. Tu sais, ah, j'ai une piece of crap, mais je mets un intrusion prevention, je mets un WAF, je suis correct. C'est juste cette connotation-là de insufficient attack protection que quand je lis le titre, je me dis, ah, c'est bizarre cette affaire-là.
Ouais, j'avoue, il est comme un peu trop générique. En même temps, oui, ça veut dire le concept du WAF qui manque peut-être des layers, mais ça veut dire d'autres choses aussi qui n'est peut-être pas 100% défini dans la release. Mais c'est ça. C'est ce que le monde, pourquoi il y a eu du drama. Ça va être utile, je suis pas mal sûr, mais c'est beaucoup trop générique et pas assez défini présentement.
Peut-être le wording qui n'est pas approprié à ce moment-là, parce que je suis d'accord avec Guillaume sur le fait que pour moi aussi, la première chose qui me fait penser, genre mets un firewall puis tu vas avoir de l'attack protection, fait que ça sonne bizarre, mais c'est sûr que je suis plus un gars d'infra naturellement, fait que mon regard est un peu peut-être différent. Mais peut-être le wording du chose qui fait que tu mettais des protections puis espérez pas que ça aille bien tout seul.
Ouais, exact. Ça va être la description qui va faire que ça va être correct. Puis je lisais un certain thread de personnes qui ont participé à l'écriture. Puis ça a l'air que ça a été le plus gros débat de nommer ce point-là. Puis la phrase qui faisait le plus de sens, c'est celle-là qu'ils ont choisi parce que toutes les autres penchaient trop d'un côté, soit vers justement le concept de rajouter des layers de firewall applicatif ou autre. Puis ils voulaient pas que ça soit trop pointu sur un point, mais il voulait que ça soit assez générique, mais là, on dirait que ça l'est juste trop. Mais on verra ce que ça donne au final.
Bon, c'est encore un draft.
Oui, oui, exact, exact. Puis ben, avec toute la discussion qu'il y a eu là-dessus, il risque d'avoir sûrement des changements. Mais l'autre point sur les API, je le trouve quand même intéressant. Même si c'est quand même de base en termes de sécurité, on le voit partout. Beaucoup de systèmes. Puis avec Nicolas, même, on en parlait récemment sur un certain forum, le concept de micro-segmentation qui va tomber en applicatif avec des tonnes d'API. Au lieu d'avoir un système principal, ça va être un API qui va être divisé en une tonne d'options, de fonctions. Mais présentement, les compagnies qui utilisent ce concept-là bien, vont exposer des API sans mettre aucune protection, mais ils vont utiliser un peu le concept d'obscurité. Ah, il n'y a personne qui voit ça, c'est dans le back-end. Mais dès que tu fouilles un peu, tu retrouves les calls en arrière, puis tu es capable de faire pas mal n'importe quoi. Mais en même temps, ils disent que c'est juste un API, on ne peut pas rien faire avec ça, on ne peut pas faire du XSS ou des injections. Mais officiellement, un API, c'est comme un site web complet. Toutes les autres attaques du top 10 peuvent s'y retrouver. Donc, c'est quand même intéressant que ce soit là. Ça pourrait être Under Protect Web Application, tant qu'à moi, mais les API, c'est la nouvelle tendance. Donc, je pense que ça va dans ce support-là.
Je pense que tout le reste peut aussi s'appliquer à cette catégorie-là. Et probablement qu'ils l'ont mis juste parce que c'est rendu tellement, tellement commun. Tu sais, comme la plupart des bugs qu'on voyait dans des applications web, ben, quand il y a eu les premières applications mobiles, presque toutes les mêmes erreurs se faisaient. Puis là, c'est la même chose encore avec les API. Fait que je pense que c'est juste plus pour que les gens se rendent compte que c'est un problème qui est assez fréquent. Tu sais, les pages web de base, tout ça, peut-être le niveau de qualité, ça augmente un peu tranquillement. Puis là, les mêmes erreurs se font au niveau des API. Fait que je pense que c'est bon juste pour que
la sensibilisation. Ça soit un peu plus.
C'est ça, exactement.
Ouais, ouais, exact.
Parce que les API REST, c'est du web, là, arrêtez. Là.
Ouais, c'est la même chose, c'est juste que c'est découpé puis appelé d'une manière différente. Là. Ça change rien du tout.
Puis by the way, un API key, c'est comme un user password, fait que passez pas ça comme n'importe quoi.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, l'API key, généralement, c'est ce qui t'identifie de façon unique, c'est comme user password. Les gens, ils garochent ça comme fouf, dans la nature.
Ouais, exact. J'ai même vu un API à un moment donné que je testais. Je me souviens plus comment il calait, mais quand tu faisais une recherche Google, tu retrouvais le token qui t'identifiait, qui était indexé partout. Fait que tu étais capable d'utiliser l'API de tout le monde. C'est vraiment terrible. Puis au final, ils ont répondu comme quoi que c'était pas grave parce que tout le monde est capable de se créer un API. J'étais comme, wow, c'est pas de même que je le vois.
Ouais, mais si tu vas utiliser un API qui te
t'appartient pas.
C'est comme, c'est fucked up rendu là, tu peux pas faire ça. Là. T'sais, oui, c'est pas grave, j'ai pas barré mes portes chez nous, mais il y a personne qui a barre, mais oui, mais ça demeure grave pareil. Là.
Tout le monde peut s'acheter une porte, en fait, c'est comme un peu ça qu'il a dit. Je suis comme, ouais, on peut s'acheter une porte, mais si je rentre dans ta porte, non, ça marche pas. C'était un gros site que je nommerais pas, mais ça arrive. Yes. Donc, ça couvre le WASP à avoir la prochaine sortie. Richie, est-ce que tu voulais nous parler de quelques autres nouvelles? Il y en a une super drôle, puis intéressante, en fait, dans le procédé qui était fait là, dans une certaine prison aux États-Unis?
Oui, exactement. Donc, il y avait une prison aux États-Unis dans l'État de l'Ohio. Il y a deux gars qui étaient... comme on le sait, les prisonniers peuvent être attitrés à faire des jobs ou à faire des petits trucs comme ça. Eux autres étaient attitrés à pouvoir être dans un centre de classement de recyclage de pièces en général. Fait que là, il y avait des pièces informatiques qui étaient là-dedans. Puis, ils ont fini par se ramasser assez de morceaux pour se monter des ordinateurs. Qui ont caché en arrière d'une planche de plywood. Bemoni avait placé ça dans le plafond, dans une salle d'entraînement. Fait que quand ils ont réussi à pouvoir tout faire ça, ils ont réussi à avoir des ordinateurs qui fonctionnaient. Ils ont réussi à les brancher sur le réseau de la prison. Puis après ça, ils ont été capables de pouvoir se connecter. Et comme de fait, ils ont décidé de pouvoir accéder à Internet et pouvoir ensuite être capables d'aller accéder à des sites de comment faire, bon, comment obtenir des drogues, comment faire des différentes choses. Et faire aussi de la fraude, appliquer pour des cartes de crédit, ces choses-là. Donc, c'est arrivé en 2015. Donc, c'est une enquête qui a duré pendant au moins un an et qui vient d'être dévoilée dernièrement. Et dans les show notes, on a un PDF qui est dans le fond un document de 50 pages qui explique le procédé, puis qu'est-ce qui s'est passé, comment ils ont fait ça, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'enquête. Donc, c'est assez, c'est assez drôle.
Ouais, ça vaut la peine d'aller lire.
Ben, puis si vous le lisez pas, ouvrez-le puis regardez au moins les photos parce que tu sais c'est vraiment détaillé, ah, on s'entend, ouais. C'est comme 50 pages. Mais moi ce que j'ai trouvé vraiment fantastique, c'est à la page 17, puis bon à la page qui a le chiffre 17 dessus, pas la vraie page du PDF 17 parce qu'il y a un mismatch là, ça me rend complètement fou quand ça arrive, mais en tout cas, je dois être un peu OCD. Fait qu'anyway, la page 17, il y a une photo du patch panel puis des switches. Puis des fils qui sortent d'une espèce de plafond suspendu. Allez voir ça, vous allez faire des cauchemars. Mais,
mais c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec genre des ressources limitées.
Ben regarde, c'est parce que regarde le patch panel, le sysadmin ne serait pas capable de plugger de quoi là-dessus.
Ah non, c'est clair, ils l'ont vraiment fusqué en plus, c'est parfait.
Puis mon préféré, c'est à la page 24. Il y a juste une photo d'une switch, puis c'est marqué « Network switch port numbers ». 10 and 16. Comme s'il y avait de quoi de spécial avec cette switch-là. Mais le meilleur, c'est que le port 16, il est comme coupé, il n'est même pas dans la photo. Fait que je sais pas pourquoi j'ai trouvé ça vraiment drôle, mais peut-être d'autres monde vont trouver ça aussi bon.
Ben, c'est les deux fils qu'eux utilisaient dans la switch de la prison, je pense que c'est ça.
Oui, oui, mais je veux dire. Dans c'est photo. Pas... il n'est pas vraiment dans la photo, puis c'est pas si important que ça d'avoir une photo du port de la switch.
Puis en plus, il a l'air fermé le port. Non, je comprends pas non plus.
Ouais. Ben, en fait, ils ont fermé le 10, puis ont. Ouais. C'est peut-être comme le 15, en tout cas, c'est à côté. Ils sont fermés, c'est une bonne nouvelle.
Ouais.
Ah, mais en tout cas, c'était ambitieux, puis ils se sont fait prendre à cause de. Surtout comme le proxy à WebSense ou quelque chose comme ça qui a détecté, qui allait sur des sites de hacking, justement, peut-être qu'ils essaient d'enloader des outils, des trucs comme ça. Puis c'est ça qui a un peu déclenché. Toute l'enquête, des catégories de proxy avoidance aussi, probablement qu'ils essayaient d'utiliser peut-être Tor ou d'autres proxys pour contourner les filtres de WebSense. Fait que c'était assez intéressant, c'était un bel effort.
Yes, A pour effort, c'est sûr. Donc ça, c'était notre dernière nouvelle. Ça fait le tour pour aujourd'hui. Il nous reste quelques petites shameless plugs. On a le 10 juin, le IAC, qui va être à Québec. Au Cégep Sainte-Foy, désolé, qui est une journée de conférences qu'on organise au Hackfest et une soirée de CTF. Mais ce que je veux demander, c'est que on cherche en fait des remote office. On a un peu le concept d'une franchise pour que, je donne un exemple comme ça, qu'il y ait le IAC Paris, donc quelqu'un en Europe qui ait un bureau et qui fasse comme nous une journée de conférence en même temps, puis le soir se joigne à nous au CTF. Donc, on recherche plusieurs remote office de ce type-là. Donc, si ça vous intéresse, simplement nous écrire. Ça serait super le fun de vous avoir. Et très prochainement, le Call for Paper va être en ligne. Donc, si vous avez des conférences, recherches, outils à réaliser, soumettez ça pour la Hackfest des 3 et 4 novembre. Donc, ça fait le tour. Merci tout le monde. Et on se revoit prochainement pour la deuxième partie technique sur Windows AD, la partie 2, pour un prochain segment technique. Et thanks. On se reparle bientôt. Merci Nick, Richer et Guillaume.
Salut!
À plus! Bye.